Oui, bonjour Monsieur Mermet, je voudrais vous dire que je vous aime. Je vous aime car vous nous donnez l'occasion de parler de ce qui nous a irrité cet été, le discours de Monsieur Sarkozy au Sénégal, nous qui sommes africains. Et je peux vous affirmer que ça fait couler beaucoup d'encre dans les rédactions des médias africains en Afrique francophone. Monsieur Sarkozy parle d'instaurer une rupture dans les relations franco-africaines. Mais l'Afrique n'a pas attendu Monsieur Sarkozy pour initier cette rupture. L'Afrique l'a fait il y a longtemps. Souvenez-vous des difficultés de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Gbagbo a été confronté à une rébellion dans son pays, précisément lorsqu'il a choisi de remettre en cause les intérêts des multinationales françaises en Côte d'Ivoire. Il a voulu tout simplement diversifier les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire et remettre en cause le monopole des multinationales françaises en Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de ce moment-là que M. Gbagbo s'est trouvé confronté à une rébellion au nord de son pays. Et tout le monde sait par qui cette rébellion a été financée. Vous vous souvenez qu'au soir de son élection, M. Sarkozy s'est embarqué dans le yacht de M. Bolloré. Tout le monde sait quels sont les intérêts que M. Bolloré a en Afrique francophone, et notamment en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que M. Sarkozy est là pour remettre en cause les intérêts de M. Bolloré en Afrique? M. Sarkozy nous fait rire. De toutes les manières, nous, on a compris qu'on n'avait rien à attendre de la France et les Africains n'ont pas attendu M. Sarkozy pour retrousser leur chemise et se battre tous les jours. Car les Africains se battent tous les jours. On vit de la débrouille en Afrique. Les Africains sont pleins de dynamisme, de créativité. Quand M. Sarkozy nous dit... D'abord, quand M. Sarkozy vient à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, pour donner des leçons aux Africains, qui est-il pour nous donner des leçons? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un chef d'État africain en visite en France se rende à la Sorbonne pour dire aux jeunes Français le comportement qu'ils doivent adopter? Est-ce que M. Sarkozy pourrait aller tenir le même discours dans une université arabe vis-à-vis des jeunes étudiants arabes? Est-ce que M. Sarkozy pourrait aller à Jérusalem, en Israël, dire dans une université israélienne aux jeunes Israéliens de ne plus commémorer la Shoah, de ne plus parler de la Shoah? Mais pour qui nous prend M. Sarkozy? Que M. Sarkozy sache que le temps de l'esclavage et de la colonisation est fini, hein? On n'attend pas après la France pour vivre, hein? Lorsque M. Sarkozy dit que la France n'a pas d'intérêt en Afrique, en attendant, le Niger fournit à la France un tiers de son énergie nucléaire. Et récemment, M. Sarkozy dit que la colonisation n'y est pour rien dans les guerres civiles que se livrent les Africains. Récemment, les autorités nigériennes ont expulsé le dirigeant de Dareva parce qu'on le soupçonnait de soutien financier à la rébellion Touareg au Niger. Et tout le monde sait que la France a toujours financé des rébellions en Afrique depuis la décolonisation. Dans les années 60, la France a déjà financé la rébellion katangaise au Nigeria. Tout ça pour s'assurer les approvisionnements en produits pétroliers. Hein? Et alors que M. Sarkozy révise son histoire, et lorsqu'il dit que la France n'y est pour rien dans la corruption en Afrique, mais je suis désolée, les multinationales françaises passent leur temps à corrompre les dirigeants en Afrique. Souvenez-vous de l'affaire Elf. L'argent du pétrole africain a financé, avant les années 90, les campagnes de la droite en France. Alors que cet argent-là aurait pu servir à financer des secteurs porteurs de développement en Afrique, comme l'éducation, la santé, l'agriculture. Par ailleurs, les sociétés multinationales françaises, pour avoir des marchés en Afrique, soudoient les dirigeants africains. Et cet argent-là, ces commissions occultes qui versent aux dirigeants africains, ne n'apparaissent dans aucun compte des budgets africains. Cet argent-là se retrouve dans les comptes en France, alors que cet argent-là pourrait servir à créer des entreprises en Afrique. Cet argent-là pourrait être reprêté aux entrepreneurs africains qui pourraient créer des emplois. Alors ne vous étonnez pas que les Africains cherchent à vous envahir. C'est tout ce que j'avais à dire. Et que M. Sarkozy révise son histoire, sa connaissance de l'histoire africaine. Merci, au revoir.
Voilà un seul et long message aujourd'hui de cette AMG, auditrice modeste et géniale, suite à l'émission d'hier qui faisait suite à ce fameux discours du président Nicolas Sarkozy en juillet, le 26 juillet, à Dakar. Un seul message aujourd'hui parce qu'on a un sommaire très chargé. On retrouve comme chaque mois l'équipe du mensuel Le Monde Diplomatique. Vous savez que depuis des années et des années, je ne sais plus combien, on se retrouve chaque mois autour de ce magazine. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec Maurice Lemoine, avec Renaud Lambert, qui a deux casquettes, une casquette ambassadrice, j'y suis, une casquette monde diplomatique, avec Christian Jacquiot, avec Dominique Kopp et avec Serge Halimi, entre autres, pour parler de quoi donc ? Ben, pour parler des armes, pour parler d'Ingrid Betancourt, de Chavez, du Guatemala, de Max Avelar, du commerce équitable, du Grand Nord, de l'Arctique, et avec Serge Halimi, des universités américaines. Mais à travers tout ça, vous allez voir comme, évidemment, nous parlons de nous autres, les Français. C'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec le monde diplomatique, pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from New York.
Voilà, on est autour du numéro du mois de septembre du monde diplomatique. Et ça commence bien. On a des bonnes nouvelles que nous donne Maurice Lemoine. C'est que nos ouvriers de l'armement vont avoir du travail grâce à notre nouveau président. Si j'ai bien tout compris, en tous les cas, ce qu'il a dit après l'affaire libyenne. Aux armes.
Oui, aux armes. Non, c'est un sujet désarmant. Effectivement, il y a eu cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, mais c'est pas sur l'essentiel, me semble-t-il, autour de la livraison par la France d'armes à la Libye, avec cette affaire des infirmières bulgares qui ont été libérées par Cécilia Sarkozy. On va pas rentrer dans la polémique. Sarkozy libère tout le monde en ce moment, il peut libérer aussi Ingrid Betancourt.
On va en parler, bien sûr.
Bon, mais en fait, le problème aussi que ça pose, indépendamment de cette affaire des infirmières, c'est qu'en ce moment, on a une pluie d'armes absolument partout dans le monde. On a vu les États-Unis annoncer 46 milliards de livraisons d'armes au cours des 10 prochaines années à tous leurs alliés au Proche-Orient, hein, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Koweït, le Bahreïn, Qatar, Oman, les Émirats Arabes Unis. Comme la livraison d'armes à l'Arabie Saoudite, hein, qui était Israël, en même temps Washington a annoncé qu'on allait, je crois que c'est augmenter d'un quart l'aide militaire américaine à Israël. Tout ça, ça fait beaucoup d'armement. Et puis là-dessus vient Nicolas Sarkozy, qui lui livre des armes à la Libye, dont je signale au passage qu'il y a un conflit naissant ou incrusté avec le Niger voisin. Donc le Niger est inquiet maintenant avec la livraison d'armes à la Libye. On s'aperçoit qu'on est en ce moment dans une espèce de course aux armements qui touche à peu près tout le monde, puisque à la fin 2006, on estimait qu'il y aurait 1 000 milliards de dollars de vente d'armes dans le monde. Bon. Alors ça pose évidemment un certain nombre de problèmes. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'il y a eu en décembre dernier, donc en décembre 2006, à l'Assemblée générale des Nations Unies, 154 pays se sont mis d'accord pour mettre en route une résolution autorisant la préparation d'un traité sur le contrôle des ventes d'armes dites conventionnelles. Il y a eu évidemment un certain nombre de pays que ça n'a pas emballé, donc il y a eu 24 abstentions, dont la Chine, la Russie, l'Inde, Israël, le Pakistan, et puis il n'y a qu'un seul pays qui a voté contre. C'est les États-Unis. J'allais dire, comme d'habitude, c'est les États-Unis. En revanche, le Conseil de l'Union européenne, lui, a appuyé fermement cette action, mais c'est quand même un peu paradoxal qu'au même moment, donc, la France nous annonce qu'elle reprend des livraisons d'armement. On doit livrer, je suis en train de chercher les chiffres parce que vous savez très bien que j'ai pas de mémoire, mais la France doit livrer, je crois que c'est 6 milliards d'euros d'armement pour cette année, 2007. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Alors Sarkozy, effectivement, a dit...
6 milliards d'euros en 2007, voilà. Alors qu'en 2004, c'était 3 milliards. Hein. C'est bien quand même, on augmente considérablement.
C'est
de la croissance, monsieur Lemoine.
Donc, oui, je sais bien. Mais vous savez qu'on a publié la touche sur la décroissance, nous. C'est bon. Et donc, quand l'opinion s'est un peu émue de cette affaire, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, Sarkozy nous a dit mais qu'est-ce qu'on va me reprocher de faire travailler les entreprises françaises ?
Ben voilà.
Bon, évidemment. Hein. Alors, il s'est peut-être un peu quand même, il a peut-être un peu récupéré le truc pour lui, parce que quand même ce qu'on a pu savoir, c'est que les négociations étaient en cours depuis 18 mois. Donc c'est pas forcément ni Cécilia ni Nicolas qui ont ramené le contrat. La question que ça pose néanmoins, c'est que ce vent de décision s'est pris par une commission. Hein, c'est le Premier ministre qui est le patron du truc. Il y a une commission interministérielle qui comprend le représentant du ministère des Affaires étrangères, de la Défense, des Finances, de l'Industrie. Et comme par hasard et comme toujours, c'est un thème récurrent, la représentation nationale, l'Assemblée, n'est pas du tout concernée par ces ventes d'armes. Donc ça pose un premier problème. On vend quand même en France 10 à 15% du marché mondial des armements. Bon, c'est pas rien. Alors, vous allez me dire, parce que vous avez bien posé des questions, mm-hmm. Je les pose à votre place, ça va plus vite. Vous allez me dire, oui, mais les membres de l'Union européenne sont en principe contraints de respecter un code de conduite. Hein, mm-hmm. Et en particulier, de ne pas alimenter des conflits qui existent déjà. Et là, il y a un élément intéressant de ce qu'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'armes qui sont construites dans un seul pays. Alors, je vais prendre deux exemples. L'hélicoptère de combat Apache, qui est un hélicoptère américain, qui a été utilisé par l'armée israélienne contre le Hezbollah, récemment. Ça fait toujours plaisir aux Apaches. Il comprend plus de 6000 pièces qui sont fabriquées dans le monde entier. Et par exemple, et un des éléments du rotor est fourni par la Grande-Bretagne. Bon. Et puis, si on prend l'entreprise européenne EADS, elle fournit des pièces et de la technologie militaire pour la mise en œuvre d'un hélicoptère de combat chinois, le Z-10, mais on n'a aucune idée de ce que Pékin va en faire. Est-ce qu'il va l'exporter ? On sait que récemment, Pékin a exporté des armements et des hélicoptères au Soudan. Bon. Donc en fait, il n'y a strictement aucun contrôle sur cette affaire. Donc on est face à une espèce de course invraisemblable, ce qui fait que tout le monde... Évidemment, essaie de rattraper le voisin. Hein, on l'a vu avec Israël qui s'inquiète de l'Arabie Saoudite. Mais Israël, en même temps, est devenu exportateur et est le principal fournisseur de la Colombie. La Colombie, augmentant sa puissance de feu, qui est 4 fois supérieure à celle de l'armée vénézuélienne, incite Caracas, qui par ailleurs est menacée par Washington, à se tourner vers la Russie. Là-dessus apparaissent des nouveaux acteurs, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Bref, on est dans une situation qui nous paraît...
La concurrence, ça s'appelle la concurrence.
Ça s'appelle la concurrence libre et
non faussée.
Juste, on rappelle quand même que parmi les principaux vendeurs d'armes, 4 sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Curieuse conception de la sécurité. Et vous allez me dire, il n'y a aucune morale dans tout ça. Alors si, on en a trouvé une. Elle peut faire sourire, mais en même temps, elle montre bien l'étrangeté de la situation, ou le côté inquiétant de la situation. C'est que le Pentagone a découvert, il n'y a pas très longtemps, cet été, que 110 000 fusils d'assaut Kalachnikov, qui avaient été livrés par les États-Unis au gouvernement irakien en 2005 et 2006, ont été perdus, purement et simplement, plus 80 000 pistolets, plus 135 000 gilets pare-balles, plus des casques, j'ai oublié le chiffre, et le Pentagone, c'est pas nous qui le disons, pense que vraisemblablement, c'est tombé aux mains des insurgés irakiens, ce qui fait qu'on pourrait dire en gros que qui sème le vent récolte la tempête.
Alors on continue avec le monde diplomatique de ce mois de septembre, on reste avec Maurice Lemoine. Il a été question de la Colombie, il a été question du Venezuela, c'est pas étonnant dans votre bouche, cher Maurice, sauf que là ça nous intéresse vraiment ce mois-ci. Ça nous intéresse vraiment parce que notre ami de la France Chavez, va probablement libérer notre Ingrid Betancourt. Et ça, c'est une initiative qui revient au président de la République française, si j'ai bien compris. Hein.
Oui, alors elle revient aussi aux familles des prisonniers et des otages. Écoutez, c'est une affaire compliquée. Sarkozy devrait savoir une chose. En fait, les guérillas des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, demandent au gouvernement colombien de s'asseoir à une table de négociation et de négocier un accord humanitaire permettant d'échanger les 46 prisonniers politiques, entre guillemets, contre environ 500 guérilleros emprisonnés. L'objectif des FARC, c'est pas uniquement la libération des prisonniers. Les FARC ont été placés en 2001, aussi bien par Washington que par Bogota, que par l'Union européenne, sur la liste des organisations terroristes. C'est une décision qui a ulcéré ce mouvement d'opposition armée. Et donc, obliger le gouvernement à s'asseoir à une table de négociation est l'objectif principal, c'est-à-dire être reconnu en tant que belligérant. Moyennant quoi, toutes les interventions extérieures, qu'elles soient de Sarkozy, qu'elles soient de n'importe qui, de mon point de vue, ne peuvent pas déboucher sur grand-chose. hein, parce qu'il y a un objectif politique très très clair dans cette affaire. Alors, du coup, comme personne réussissait, on s'est tourné vers Chavez, ce qui note en particulier quand même qu'on le considère comme un personnage important. Je ne suis pas persuadé que Chavez va obtenir plus que ce qu'ont obtenu les autres, dans la mesure où d'abord, contrairement à ce qu'on dit, Chavez n'a pas des relations étroites avec les FARC, ça fait partie de la légende destinée à délégitimer Chavez, hein, qui serait ami, complice de la narco-guérilla colombienne. Et ensuite, les FARC ont toujours leur objectif politique. En revanche, peut-être ce qu'on peut imaginer, mais là je suis dans les supputations, hein, faut être prudent, c'est que Chavez obtienne des FARC une preuve de la vie d'Ingrid Betancourt, parce que ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on n'a eu aucune preuve de son existence. Je pense que ça fait partie des choses possibles. Ensuite, il va recevoir à Caracas un émissaire des FARC. Peut-être, mais là ça paraît plus compliqué qu'une des choses qu'il pourrait faire, mais je pense pas qu'il l'obtiendra, c'est d'obtenir du président Alvaro Uribe qu'enfin il accepte de procéder à cet échange humanitaire. Et donc voilà quoi. Mais simplement, dans une certaine presse, on sent la tentation, par exemple, de nous présenter le Venezuela comme la base arrière des FARC. Ça n'a strictement aucune réalité. Le gouvernement vénézuélien, d'ailleurs, a toujours pris la peine de se démarquer des FARC, parce qu'ils prônent une démocratie, plutôt une révolution démocratique. Bon, les FARC ont une longue histoire derrière elles, depuis 1948. Et par ailleurs, alors sur la présence des FARC en territoire vénézuélien, comme dans toutes les situations de guerre interne, il est évident que les territoires des pays voisins sont utilisés par les mouvements insurrectionnels, les mouvements armés, pour sortir des blessés, pour s'approvisionner, pour faire rentrer des journalistes. Moi, je me souviens qu'à l'époque du Salvador, dans les années 80, pour aller en reportage auprès de la guérilla salvadorienne, on passait clandestinement la frontière par le Honduras. Ça ne signifiait en aucun cas que le gouvernement hondurien était de mèche avec la guérilla salvadorienne. Il y a 2300 km de frontières communes entre le Venezuela et la Colombie. Donc un gouvernement vénézuélien, quel qu'il soit, ne peut pas ignorer le pays voisin. Il y a toujours eu des relations entre les gouvernements vénézuéliens et les FARC. Toujours. Donc il n'y a pas plus de connivence entre Chavez et les FARC qu'il n'en avait auparavant. Et donc aujourd'hui, où on demande à Chavez de servir de médiateur dans cette affaire des prisonniers, il est évidemment tout disposé à le faire. Quels seront les résultats? Nous le verrons un peu plus tard.
Para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de reapavos. Si el norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un pachá. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de reapavos. Si el norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un pachá. Ay, Nueva,
on continue avec le Diplo et avec Renaud Lambert. Renaud Lambert ne fait pas que des reportages au MEDEF, il va aussi au Guatemala. Et pour le Monde Diplomatique, il est allé faire un tour au Guatemala. Il y a des élections dans quelques jours, le 9 septembre. Et comment ça se présente? Parce que l'Amérique latine passe à gauche, passe l'arme à gauche, on est en train de nous le dire. Est-ce que c'est le cas du Guatemala, Renaud?
Non, pas vraiment. Mais d'ailleurs, c'est pas sans lien avec l'université d'été du MEDEF, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que la quasi-totalité des candidats à l'élection présidentielle au Guatemala sont marqués à la culotte par des représentants du MEDEF local, qui s'appelle le CACIF. Certains d'entre eux sont même candidats ou candidats à la vice-présidence, puisqu'au Guatemala, on élit un président et son vice-président. Et donc, effectivement, les élections, c'est dimanche prochain, c'est très bientôt. On va élire donc les présidents, les députés, des maires. Et il y a assez peu de suspense parce que il va pas se passer grand-chose. Les choses vont sûrement continuer telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que depuis le processus de paix en 1996, le Guatemala s'est engagé sur la voie de la modernité. Depuis 1996, le Guatemala n'a connu que des présidents de droite. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est à 96% à droite. C'est un climat de démocratie totalement apaisé, comme en témoignent des cérémonies de civisme, comme ce match de foot qui a eu lieu en juillet de cette année où se disputaient les patrons de presse. Il faut rappeler qu'au Guatemala, tous les médias sont détenus par le secteur privé et l'oligarchie. Et donc, face aux patrons de presse, on trouvait la quasi-totalité des candidats au présidentiel, et dont certains...
Ça prouve qu'ils ne sont pas dans la même équipe.
Voilà, mais au moins, ils se passent la balle.
Je ne sais pas si on arrivera à faire ça en France.
Ils se passent la balle. Et on trouvait, donc, dans l'équipe des candidats au présidentiel, on trouvait, par exemple, Otto Pérez Molina, qui est un ancien général, responsable des services de renseignement à l'une des périodes les plus noires de la répression, avec à son palmarès plusieurs milliers de victimes, et lui sautant au cou lorsqu'il marquait un but, un ancien guérilleros, marxiste, fondateur des phares guérilla guatémaltèques. Et donc, on voit que le pays s'est mis en route vers la modernité, ce qu'a salué George Bush, le président nord-américain.
Ah, c'est ça que vous appelez la modernité?
Oui, voilà, c'est ça. C'est cette volonté de défendre la démocratie. Et donc, le Guatemala est le seul pays d'Amérique centrale auquel a rendu visite George Bush au printemps dernier, puisqu'il trouvait en la personne du président actuel, Oscar Berger, un allié pour les politiques qu'il cherche à mettre en place. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut penser que rien ne va changer au Guatemala. Et ça rejoint aussi ce match de foot, parce que, comme vous le disiez, ils ne jouent pas dans la même équipe, mais tous... Donc
sur le même terrain.
Sur le même terrain, et ils sont tous payés par les mêmes personnes. Comme je le disais, les médias sont détenus par l'oligarchie, et tous les partis politiques, ou la quasi-totalité des partis politiques, sont financés par l'oligarchie guatémaltèque. C'est une vingtaine de familles. Donc les familles financent un parti, un autre. Il y a même certaines familles qui financent les quatre grands partis qui sont en tête en ce moment, donc pour être sûr de tirer tous les bénéfices des prochaines élections. Alors, il ne faut pas penser non plus que la droite guatémaltèque n'a pas su se mettre au goût du jour. Et ça, ce n'est pas sans lien avec ce qu'on connaît en France aujourd'hui. C'est-à-dire que la droite guatémaltèque s'est mise sur la voie de la modernité, elle aussi, en intégrant à son discours, qui est un discours de domination sociale et de domination économique, enfin, ce qui n'est pas un discours, mais qui une attitude de domination, elle a intégré à son discours toute la rhétorique de la diversité en termes de genre et de race. Et ce discours de la diversité au Guatemala...
On va en parler de la diversité avec Serge Halimi à propos de l'université américaine, un peu plus loin.
Mais ce discours de la diversité, on s'aperçoit qu'il est assez facilement suivi par une gauche guatémaltèque qui, comme dans d'autres pays, cherche elle aussi à se moderniser, ce qui bien souvent revient à se droitiser. Et on a pu entendre une candidate de gauche expliquer que la gauche ferait un meilleur gouvernement parce qu'elle mettrait plus de femmes au gouvernement. Mais le problème posé à la gauche guatémaltèque comme à d'autres gauches, c'est que les femmes de droite, ça existe. Et ça, la droite guatémaltèque l'a bien compris, qui, elle, se réfère à des personnages comme Margaret Thatcher, dont le statut de femme l'a pas empêché de mettre en œuvre la contre-réforme néolibérale en Angleterre. Donc, on s'aperçoit qu'au Guatemala, la stratégie de cooptation de femmes de droite fonctionne à plein. Elle fonctionne aussi avec les indigènes de droite, et ça s'est cristallisé autour du personnage de Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú a été...
C'était Rachida Dati.
On reste au Guatemala.
J'attendais.
Voilà, on peut s'attendre à ce qu'elle l'ait. Mais non, au Guatemala, c'est Rigoberta Menchú. En 92, elle a reçu le prix Nobel de la paix. Elle a été appuyée par l'ancienne guérilla, l'URNG, parce qu'elle représentait une lutte contre les dictatures. Mais elle avait une autre casquette qui la rendait acceptable par la partie la plus à droite des faiseurs d'opinion, c'est qu'elle a participé au gouvernement d'Oscar Berger, l'actuel président néolibéral, et elle avait montré une certaine disposition à accepter un discours politique qui n'était plus vraiment à gauche. Et donc, elle est aujourd'hui candidate et tisse cette rhétorique de la rénovation ni à droite ni à gauche, ce qui au Guatemala comme ailleurs est souvent un discours de droite, et ce qui ne l'a pas empêché par contre de s'associer pour sa candidature à Fernando Montenegro, ancien président du MEDEF local, qui lui n'a jamais dit qu'il n'était ni à droite ni à gauche.
Depuis 2005, Dagris commercialise un coton équitable avec l'association française Max Avelard. Le coton est censé être acheté à un prix juste aux petits producteurs africains. Pour cette action, Max Avelard a reçu plus d'1 million d'euros de subventions de l'État français.
On parle beaucoup du groupe d'Agris au sujet du commerce équitable avec le coton. Est-ce que vous croyez qu'il serait possible de faire du commerce équitable avec le karité ?
Ah, écoutez, c'est une question qui, effectivement, l'on peut se poser. Je dois dire que je n'ai pas la réponse. Parce que, comme vous le savez, cela demande de beaucoup d'acteurs de se mettre dans cette affaire-là. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait déjà rendre plus équitable la répartition de la valeur de l'amende de karité et, encore une fois, essayer de faire en sorte que le nombre d'intermédiaires, n'est-ce pas, puisse diminuer. On connaît les prix des premiers intermédiaires, mais on ne sait pas véritablement à quel prix ils ont acheté auprès des femmes. Mais j'ai plutôt l'impression que les amendes doivent s'acheter, disons, entre 30 et 40 francs aux femmes, sous réserve, hein, et se retrouvent ici à 110, 115 francs. Bon, alors, encore une fois, il y a le transport, beaucoup d'activités qui sont utiles, mais ça fait quand même une marge importante, non ?
Bon, on va continuer avec Max Avelard. Alors, Christian Jacquiot, vous donnez un papier là dans le diplôme de ce mois de septembre sur Max Avelard. Alors d'abord, j'apprends que Max Avelard, c'est pas un homme. Je croyais que c'était un personnage bien précis. Moi, je suis un peu déçu parce que quand je fais mes courses, quand j'achète mon café et tout, je pense faire quelque chose de bien en achetant des choses dans le commerce équitable. Et vous êtes en train de me dire dans ce papier que c'est pas tout à fait vrai, que je me fais un petit peu avoir, peut-être.
Bah, peut-être un petit peu, parce que le commerce équitable, ce n'est pas forcément Max Avelard, en fait. Max Avelard est un acteur, l'acteur principal du commerce équitable. Mais le commerce équitable est né en 1964 d'un appel à la CNUSED, donc à Genève, où les pays du Sud lançaient le fameux appel Trade Not Aid. Ça veut dire on veut bien faire du commerce avec vous, un commerce juste, mais on n'a pas besoin de votre aide, en fait. Et à partir de là, sont nées effectivement des initiatives comme les boutiques du monde, un petit peu partout. Et puis, en 1970, donc, est apparue en France la première boutique artisan du monde. À l'initiative, d'ailleurs, de l'abbé Pierre, il faut pas l'oublier. Et donc, en 1988, a été créée la marque Max Avelard, donc, en Hollande. À l'initiative, donc, de deux prêtres, deux missionnaires hollandais. Avec, d'ailleurs, il faut le savoir, c'est pas tout à fait rien, puisque les églises hollandaises ont mis quand même sur la table l'équivalent de 2 500 000 euros, pour lancer la marque Max Avelard. Max Avelard, c'est un personnage de roman, en fait, hein, tout simplement. Et donc, on s'est dit, dans le fond, eh bien, on va essayer de redonner aux petits producteurs pauvres ce que leur refusent les transnationales, tout simplement. Donc, l'idée, c'était de ponctionner le consommateur et de lui demander s'il était prêt de payer un petit peu plus un produit, essentiellement le café, d'ailleurs, et à partir de ce moment-là, de donner un petit peu plus aux petits producteurs du Sud, tout simplement. Et puis, ensuite, on a glissé vers un commerce plutôt alternatif, avec une volonté de transformer la société, vraiment de lutter contre le système capitaliste. Et puis, aujourd'hui, eh bien, il y a une déviance totale, puisque ce commerce équitable est récupéré par le système véritablement, on l'a vidé de son contenu politique, et on est passé, j'aime bien dire, du commerce équitable au commerce de l'équitable, où l'équitable aujourd'hui n'est plus qu'un produit quelque part au fond d'un supermarché.
Alors, est-ce que ça a changé la vie des producteurs ? Si on dit café, moi je pense Amérique latine, est-ce que ça a changé leur vie ?
L'idée, effectivement, c'était de changer un petit peu la vie des producteurs, mais on se rend compte que d'abord, il y a deux écoles dans le commerce équitable. Il y a ceux qui disent, on va culpabiliser le consommateur, lui demander plus pour donner plus aux petits producteurs, et puis il y a ceux qui disent, c'est pas ça du tout. Le commerce équitable, c'est une autre répartition du prix. C'est-à-dire, autrement dit, le consommateur a payé un prix, on va le répartir différemment, distribuer davantage aux producteurs, à ses salariés, à tous ceux qui sont tout au long de la filière, donc transporteurs, etc. Et on se rend compte que dans cette mécanique-là, eh bien, finalement, il n'y a pas grand-chose qui revient aux producteurs. D'abord, dans le système, Max Avelard, le plus connu, on a oublié les plus importants, c'est-à-dire on a oublié les salariés, puisqu'un producteur de café, par exemple, est quelqu'un qui fait appel chaque année à 30 ou 50 travailleurs donc saisonniers, journaliers, donc les plus pauvres d'entre eux, puisqu'on parle là des sans-terre, hein, eh bien, ces gens-là sont exclus du système du commerce équitable. Autrement dit, on va payer un petit peu plus le producteur, le propriétaire de la terre, mais pas ceux qui travaillent sur la terre. Et donc, finalement, on s'aperçoit que le retour est minime. Le retour est minime, puisque le retour que revendique d'ailleurs Max Avelard, c'est 50 millions d'euros par an pour 1 million de bénéficiaires, donc de paysans, ce qui veut dire clairement 50 euros par an, ce qui veut dire, divisé par 12, 4 euros, un peu plus de 4 euros par mois. Les frais de douane et les frais de transport locaux. Autrement dit, très très peu de choses reviennent chez les producteurs, chez ceux qui produisent, et tout le bénéfice se fait aujourd'hui au nord, chez ceux qui distribuent et chez ceux qui transforment les produits équitables.
Non, mais moi je vais avoir un procès avec Max Avelard, là, si je diffuse ce que vous me dites là.
Ben, je crois pas, moi j'en ai pas pour l'instant, ce n'est malheureusement que la vérité, c'est l'envers du décor. On est parti d'une idée, il faut le savoir, très très généreuse, puisqu'encore une fois le commerce équitable nous posait la question de la répartition de la richesse, et aujourd'hui, eh bien, c'est complètement récupéré. Et il suffit d'ailleurs de voir un petit peu quels sont les partenaires de Max Havelaar. C'est McDo, c'est Starbucks, c'est le groupe Accor, le groupe hôtelier, hein, qu'on connaît bien, les problèmes de femmes de chambre, etc. C'est Nestlé, c'est Dagris qui est un promoteur d'OGM et qui est en train de récupérer la terre des producteurs de coton africains, c'est Leclerc, Lidl, etc. Bref, c'est tous les grands groupes aujourd'hui qui ont des choses à se faire pardonner, qui ont besoin de restaurer leur image en termes de marketing, qui aujourd'hui s'engouffrent dans le commerce équitable. Mais sans, encore une fois, en ayant vidé de son contenu politique. On a complètement dépolitisé le commerce équitable qui était un outil de transformation dans l'esprit.
Est-ce que c'est tout le commerce équitable ou c'est seulement Max Havelaar que vous visez là?
Alors là, ce que je décris, c'est le modèle principal. Donc c'est effectivement Max Havelaar. À côté de Max Havelaar, il y a d'autres acteurs du commerce équitable qui essayent d'aller plus loin en se disant, dans le fond, le commerce équitable, c'est pas ça, c'est une démarche tout au long de la filière, donc ça doit devenir la norme. D'abord, ça doit devenir la norme au nord comme au sud, dans les rapports nord-sud, bien sûr, dans les rapports nord-nord, et aussi dans les rapports sud-sud, bien entendu. Et évidemment, quand on dit ça, eh bien, on remet en cause le système économique, on remet en cause le néolibéralisme, et là, ça fâche un petit peu. Donc, on va privilégier un certain commerce équitable qui, juste, est dans les rapports nord-sud, sur des produits de niche, véritablement. À côté de Max Havelaar, il y a d'autres acteurs, bien sûr, il y a Artisans du Monde, il y a Minga, il y a d'autres aussi, beaucoup moins connus, beaucoup moins médiatiques, qui ne sont pas soutenus, eux, par les pouvoirs publics, puisque Max Havelaar bénéficie très généreusement de subventions de la part du ministère des Affaires étrangères, ce que n'ont pas les autres acteurs du commerce équitable, et donc des gens qui essayent d'aller plus loin, donc essayent de se dire dans le fond, l'équitable doit s'appliquer partout, tout au long de la filière. Le producteur, bien sûr, ses salariés, ceux qui transportent, encore une fois, jusqu'à la caissière du supermarché, bien entendu. Là, c'est vraiment la question de la répartition de la richesse qui est posée. Évidemment, comme ça fâche, eh bien, on préfère la première formule qui ne dérange pas grand-chose. Donc, le consommateur croit faire le bien. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Le consommateur remplit un caddie qui déborde de produits parfaitement inéquitables, souvent produits par les enfants dans les sous-sols du tiers-monde. Et puis, pour se donner bonne conscience, sur le sommet du caddie, on met un petit paquet de café Max.
C'est moi, ça.
On rentre à la maison, on a fait sa BA. C'est très sympathique, je veux dire. Moi, j'aime bien dire ça, c'est la petite pièce jaune dans le chapeau du pauvre à la sortie de l'église, c'est fort sympathique, il ne faut pas la supprimer, mais on ne change pas le monde avec ça, je veux dire. Et ce levier de transformation qu'on nous avait promis, eh bien, on est très loin du compte. Pour autant, l'idée du commerce équitable reste tout à fait valide, et j'allais dire plus que jamais, on n'a jamais eu autant besoin d'équité qu'aujourd'hui, donc il faut la restaurer, regarder exactement de quoi il s'agit, et restaurer vraiment.
Comment
il y a une solution très simple, c'est de faire la transparence sur le prix des produits que l'on achète. On se rappelle d'un collectif, d'une association qui s'appelle le collectif de l'éthique sur l'étiquette, qui, il y a quelques années, nous avait donné la répartition du prix d'une paire de chaussures de sport, où l'on voyait que sur 100 euros pour une paire de Nike, par exemple, eh bien, pratiquement la moitié revenait au distributeur et 1,78% seulement pour ceux qui avaient produit la paire de chaussures, cousues, découpées, etc. Eh bien, si on faisait la même chose pour les produits, tous les produits que nous consommons, on verrait effectivement que ceux qui s'accaparent la richesse aujourd'hui, eh bien, c'est pas ceux qu'on pense, c'est effectivement les distributeurs et les grands groupes de l'agroalimentaire.
Dominique Kopp, vous donnez ce mois-ci dans Le Monde diplomatique un papier passionnant sur l'Arctique et sur le pôle Nord. Il y a une carte qui est assez formidable parce que pour une fois, on prend de la hauteur. Hein. On voit notre planète de dessus, c'est-à-dire pile poil, on est à l'aplomb du pôle Nord. Et puis, bien sûr, on voit tous les pays qui entourent ce que vous appelez une Méditerranée du Nord, c'est-à-dire, c'est la Russie, les États-Unis, le Canada, le Danemark, la Norvège. Or, ce que vous nous dites, c'est que dans 50 ans, le réchauffement climatique entraînera la disparition des glaces entre le Pacifique et l'Atlantique en été, que depuis 30 ans, 1 million de kilomètres carrés de banquise ont disparu pour cause de réchauffement, et que donc on va pouvoir accéder beaucoup plus facilement à cet espace-là. Or, le 2 août dernier, à 4261 mètres de profondeur, à l'aplomb pile-poil du pôle Nord, un sous-marin russe, un sous-marin de poche, plantait un drapeau russe en titane inoxydable. Or, cet exploit, c'en est un, n'est pas innocent. Il augure des enjeux créé par ce réchauffement et des enjeux qui sont évidemment d'ordre de l'énergie, du pétrole, de ressources que contiendrait, naturellement des hydrocarbures, que présenterait cet espace. Alors, expliquez-nous un peu tout ça, quels sont les enjeux, les risques et les conflits à venir éventuellement.
Alors, j'ai pas de boule de cristal pour les conflits à venir. Les enjeux, ils sont multiples. Ils sont évidemment de la prouesse technique et scientifique, effectivement, d'effectuer une plongée à cette profondeur. Ils sont évidemment de prestige international parce que, comme je le dis dans l'article, la Russie sait très bien que la voie légale de revendication territoriale, ça passe par l'ONU et la Convention de la mer. Donc, ils sont surtout une façon pour la Russie, avec ce planté de drapeau exactement sous le pôle Nord, une manière de dire on est là techniquement, on est là scientifiquement, et on arrive avec des revendications territoriales, puisque la Russie, contrairement aux États-Unis, a ratifié la Convention de l'ONU de la mer. Ce qui pose le problème pour les États-Unis, c'est qu'ils ne l'ont pas ratifié, et donc ils ne peuvent pas avoir de revendications territoriales. Donc, les enjeux, ils sont bien sûr aussi en termes de trafic maritime, ça c'est des enjeux plus subsidiaires par rapport aux plantées de drapeaux, mais il est clair que la fonte des glaces qui est effectivement avérée, alors les experts divergent sur les différentes causes de cette fonte, mais le constat est unanime, ça fond, effectivement l'Arctique fond. Donc des nouvelles voies maritimes vont être dégagées, et il faut savoir que l'océan Arctique relie, notamment par le passage du détroit du Nord-Ouest, l'Atlantique au Pacifique. Mmh. Ce qui ouvre des perspectives absolument colossales en termes de fret maritime, quand on sait qu'à peu près, je crois que c'est 80 ou 90% du commerce mondial transite par les mers. De toute façon, le véritable enjeu, outre le trafic maritime, c'est l'exploitation des ressources du sous-sol.
Mais on en est sûr, ça vous dites pourrait, dans votre papier, vous dites pourrait contenir d'importantes réserves d'hydrocarbures. On est sûr de l'existence de ces réserves ?
On est, en tout cas, beaucoup d'experts, je pense qu'on en est assez sûr. Bon, maintenant, il y a eu, par exemple, aussi des experts qui s'étaient beaucoup avancés dans le cas de la mer Caspienne, qui devait aussi receler de véritables trésors. Mais il y a quand même un avis très unanime par rapport à la potentialité. Maintenant, on parle d'un quart à un tiers des réserves mondiales, donc plus que le golfe Persique. Maintenant, d'autres diront un petit peu moins, mais c'est, je pense, quand même relativement avéré qu'il y a des ressources incroyables et qui n'ont pas pu être exploitées du fait de l'inaccessibilité de ces régions. Mmh. Et le réchauffement climatique permet cette accessibilité à moyen et à court terme même.
Il y a d'autres choses que les hydrocarbures ?
Alors, il y a du gaz, il y a du zinc, il y a du cuivre, il y aurait peut-être de l'or, du charbon, oui, il y a tout ce qui est minerais et hydrocarbures, bien sûr.
Alors, on est à la veille d'une ruée vers le nord, vers les pôles.
C'est l'Eldorado, c'est le nouvel Eldorado, bien sûr. On n'est même pas vraiment à la veille, on y est déjà.
J'en viens quand même à cette image assez étonnante de ce sous-marin qui plante un drapeau au fond de l'océan, comme ça. Enfin, ça fait tout à fait bande dessinée. Et les scientifiques qui ont pratiqué cette disent que c'est une prouesse et qui est comparable, disent-ils, à la conquête de l'espace. Est-ce qu'il y a un rapport entre cet exploit et l'espace ?
Oui, alors il y a plusieurs rapports. Il y a déjà Gagarine a été le premier homme envoyé dans l'espace, mais le premier drapeau planté dans l'espace, donc sur la Lune, c'est les Américains. C'est bien pour ça que le vice-président de la Douma a dit dans ses communiqués de presse que leur prouesse était comparable à ce planté de drapeau sur la Lune. Maintenant, effectivement, les ressources de l'Arctique, elles entraînent, comme je le disais, des perspectives extrêmement importantes en termes de maîtrise énergétique. Mais derrière, il y a évidemment la recherche spatiale. Et la recherche spatiale, c'est pas inintéressant de se dire qu'elle s'effectue essentiellement en Antarctique, donc dans les environs du pôle Sud. Parce que l'Antarctique, contrairement à l'Arctique, jouit vraiment d'un statut ultra préservé par le traité antarctique, renforcé par le protocole de Madrid qui le déclare réserve naturelle. Et donc, on ne peut pas du tout faire ce qu'on veut. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la science est effectivement largement encouragé, la coopération internationale aussi. Donc, beaucoup d'essais destinés à l'espace se déroulent en Antarctique. Donc, les pôles apparaissent vraiment comme des régions extrêmement stratégiques. Le Nord, avec les ressources naturelles, dont les bénéfices seraient en grande partie, en tout cas pour les États-Unis, aussi affectée à la recherche spatiale, puisque l'implantation sur la Lune est prévue de façon permanente en 2024. Il faut payer la station spatiale internationale qui doit être finie en 2010 et qu'on est vraiment en train de rechercher l'implantation sur Mars. Donc les États-Unis sont absolument à la recherche de fonds parce que c'est des budgets colossaux et certains experts d'ailleurs disaient qu'il fallait gréver les budgets sociaux et d'autres budgets pour affecter cette recherche à l'espace. Donc les bénéfices du Nord serviront aussi à payer la recherche au Sud puisque comme je l'écris dans, dans le journal, l'Antarctique c'est l'antichambre de l'espace et c'est la base arrière et le véritable enjeu il est aussi là et il faut aussi savoir que dans beaucoup d'agences spatiales il y a pas mal de projets concernant l'exploitation des ressources de l'espace et que ça a déjà pas commencé parce que technologiquement on n'y est pas encore mais que c'est des projets qui ne sont pas du tout de la science-fiction qui sont très étudiés et très travaillés. On y est demain ça dans ce cas de figure là. Donc les pôles sont doublement stratégiques et au niveau du climat géopolitique international présent et au niveau de l'avenir par rapport à la conquête de l'espace qui est en route. Disons que c'est important de vraiment de montrer que c'est des régions là, c'est pas seulement des belles étendues, c'est pas seulement l'ours polaire, c'est pas Walt Disney avec les manchots, il y a des enjeux fondamentaux qui sont là-bas, il y a des mythes. Il y a des phénomènes naturels, on peut voir 3-4 soleils, là on ne le sait pas non plus. Il y a une histoire de l'exploration qui est fascinante et il y a un enjeu géopolitique énorme et des recherches scientifiques qui sont vraiment de pointe. Et on ne le dit pas du tout dans la globalité. C'est toujours un petit peu un angle sur le réchauffement climatique ou sur les gens qui vont là-bas et qui vont montrer comment ils sont en train de transpirer sur la banquise.
Желтой жаркой Африки в центральной ее части как-то раз вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть по топу. А в общем так один жираф влюбился в антилопу. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей жираф большой. Папе антилоп ему зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу все едино. И жирафа взять брюшит, видали остолопа. И ушли к бизонам жить жирафом антилопа. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей жираф большой. Ему видней. Что же, что рога у ней, кричал жираф любовно. Нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей жираф большой.
Continue avec le diplôme, toujours avec le numéro du mois de septembre. Et là, on va partir pour les États-Unis et voir ce qui se passe un peu dans les universités, les prestigieuses universités américaines qui sont un exemple hein, pour un pays comme le nôtre, Serge Halimi. Il ne faut pas l'oublier quand même.
Naturellement, comme d'autres domaines de la vie américaine nous servent d'exemple. Dans le cas des universités américaines, ce qui est assez frappant, c'est que l'image qu'on en a en France, c'est naturellement les universités d'élite. Il y a 4000 établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis. Il y en a 1500 qui sont de type IUT, qui préparent à des scolarités de 2 ans. dont le niveau est en général assez faible. Souvent, on en sort avec un niveau qui est à peine supérieur à celui qu'on aurait à la sortie d'un lycée en France. Mais il y a celles dont tout le monde parle, qui sont les établissements d'élite, et une douzaine d'établissements ultra-sélects, privés, qui coûtent une fortune, ce qu'on appelle de la Ivy League, qui comprennent Harvard, Yale, Princeton, qui disposent de ressources colossales. Prenons par exemple le cas de Harvard, pour qu'on se fasse une idée. Harvard dispose d'environ 30 milliards de dollars, qu'il place naturellement, et l'essentiel des ressources tirées par Harvard, finalement, ne viennent plus tellement des frais de scolarité eux-mêmes énormes que paient les étudiants, mais des placements financiers de cette université, qui ont été fort bons, puisque ces dernières années, ils ont progressé de 10 à 20% par an depuis 15 ans. Donc il y a ce système qui est extraordinairement éclaté, extraordinairement inégalitaire, qui permet à une université d'avoir autant de ressources que bien des États eux-mêmes, et qui lui permet de vivre comme une entreprise financière qui place ses produits, qui vend sa marque. Parce que l'essentiel, évidemment, aux États-Unis, dans ce système éclaté, est de savoir comment vous êtes classé. Dès lors que chaque université est autonome, qu'elle a sa scolarité, ses études, ses qualifications qui permettent d'être admis ou de ne pas être admis, ce qui compte, c'est le classement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment fonctionne ce classement. Eh bien, parmi les critères qui permettent d'être en haut de la pyramide, il y en a un qui est logique, qu'on comprend tout à fait, qui est l'appréciation par les universitaires américains eux-mêmes. Ils disent, voilà, cet établissement est meilleur que l'autre. Eh bien, ce critère-là ne compte que pour 25% de la note totale. Et dans la note totale, qui vous permet d'être en haut ou qui vous précipite en bas de la pyramide, vous avez la sélectivité des étudiants. Si vous n'acceptez que 5% des candidats, vous êtes beaucoup plus sélectif que quand vous acceptez 50 ou 60% des candidats. Ça compte pour 15% de la note. Ressources financières de l'université, 10% de la note. Inutile de dire qu'on comprend pourquoi Harvard se retrouve presque toujours en haut des classements. C'est assurément une bonne université, mais c'est aussi une université très riche. Et alors, ça c'est 10%. Et alors, dernier critère qui est intéressant, c'est le niveau de don à leur université des anciens élèves.
Ah.
Alors, les universités publiques aux États-Unis, la règle, c'est que la plupart des anciens élèves ne donnent pas. Après tout, bon. Alors que les universités privées, non seulement on donne, mais naturellement, quand on sort d'Harvard ou de Princeton ou de Yale, c'est qu'on a des moyens et on donne beaucoup. Donc vous voyez que ces trois critères qui sont ressources financières, sélectivité des étudiants et niveau de don à leur université des anciens élèves ont plus d'importance lorsqu'on en fait le total que l'appréciation par les universitaires de la qualité des études qu'ils dispensent. Et dans le dossier du Monde diplomatique, il y a donc deux pages qui évoquent la situation des universités américaines et puis une qui évoque la situation des universités françaises et qui explique qu'avec l'autonomie qui se dessine, il sera aussi vraisemblablement à terme possible au président d'université de travailler en quelque sorte les coefficients qui rapportent le plus dans les classements pour après attirer les meilleurs étudiants et réserver évidemment aux universités moins cotées, moins prestigieuses, les étudiants qui sont moins compétents ou moins bien notés. Alors, il y a un autre sujet que j'évoque, donc, qui reprend un peu ce que disait Renaud Lambert tout à l'heure, à propos des États-Unis et des universités, c'est cette question de la diversité. Parce que récemment est sorti un livre aux États-Unis que j'ai trouvé très intéressant, qui pose le problème de la diversité et qui se dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème lorsque systématiquement on privilégie dans la réalité sociale ce critère de la diversité beaucoup plus que le critère de l'inégalité. Chacun sait que dans la plupart des pays occidentaux, les inégalités se creusent. Donc quand vous souhaitez parler d'autre chose, évacuer le problème sans en avoir l'air, comment vous faites ? Premièrement, vous suggérez que les principales inégalités qui existent sont celles entre hommes et femmes, blancs et noirs, jeunes et vieux. Et beaucoup moins les inégalités entre riches et pauvres.
C'est chez nous, ça.
Voilà, exactement. On va en venir chez nous. Deuxièmement, vous assurez la promotion de quelques femmes.
On va parler de vous.
Voilà. Deuxièmement, vous assurez la promotion de quelques femmes ou de quelques noirs dans les écoles d'élite, celles de la Ivy League qu'on a évoquées aux États-Unis, par exemple, ou à Sciences Po, ou dans des positions de pouvoir. Et ensuite, vous espérez que le syllogisme suivant va fonctionner. Puisque les Noirs ou les femmes ou les Arabes sont particulièrement défavorisés, ce qui est souvent vrai, puisque Colin Powell, ou Fadela Amara, ou Condoleezza Rice, ou Harry Roselmack occupent des positions de pouvoir, le problème des inégalités est en quelque sorte réglé. Et au fond, tout est affaire de volonté. Eux, ils ont pu, ils étaient dans la situation la plus difficile, ou perçus comme la plus difficile, c'est bien la preuve que chacun peut y arriver. Et ce que fustige Walter Ben Michaels, parce que même s'il ne le sait pas, car il n'évoque que le cas des États-Unis, elle a permis aussi à Nicolas Sarkozy de nommer un gouvernement plus ou moins paritaire, avec des femmes, des personnes issues de l'immigration, comme on dit, un cabinet d'ailleurs tellement divers qu'il comprend même des personnalités socialistes. Et avec ce ministère, qu'est-ce qu'il a pris comme première mesure ? Des dispositions qui vont creuser encore les inégalités, car elles ont un peu plus favorisé les riches. Le bouclier fiscal, la baisse de l'impôt sur les successions, etc. Mais si vous lui en faites la remarque, il vous dira « Ah oui, mais regardez, dans mon cabinet, il y a des gens issus des minorités, il y a des gens, etc. » Donc je me préoccupe de ce problème-là. Prenons un autre exemple, le débat sur la représentativité de l'Assemblée nationale en France. L'Assemblée qui vient d'être élue. Tout le monde a dit « Il y a 107 femmes députées, 18,5% contre 12% avant, c'est bien, c'est pas assez, mais c'est mieux. » D'accord. On a dit « L'Assemblée nationale compte 16 députés d'origine non européenne. » C'est pas assez, mais c'est mieux. D'accord. En somme, c'est pas assez, mais l'Assemblée nationale est davantage à l'image du pays. Soit. Mais qu'a-t-on oublié ? Quel chiffre n'est jamais cité ? Ceci. Sur les 577 députés qui viennent d'être élus, l'Assemblée compte environ 40 chefs d'entreprise, 113 cadres et ingénieurs, 118 membres des professions libérales et 9 journalistes.
Combien de tourneurs fraiseurs ?
En revanche, justement, on y vient. L'Assemblée compte seulement un ouvrier et 25 employés, soit moins de 5% du total, alors que ces deux catégories rassemblent ensemble près de la moitié de la population. Donc vous voyez, comme on privilégie en quelque sorte une manière de voir la réalité sociale à travers ce critère de la diversité, on ne voit pas, ou on ne voit plus, ou on voit de moins en moins le fait que les inégalités sociales, elles, se creusent. Revenons aux États-Unis et aux universités. On dit par exemple que dans les universités de la Ivy League, les universités d'élite, il n'y a pas assez de Noirs, d'Hispaniques, etc., etc. Et c'est vrai, en un sens. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est qu'il y a encore moins de pauvres. Si vous regardez ces universités d'élite, vous verrez que 75% des étudiants viennent du quart de la population le plus riche et à peine 3% des étudiants viennent du quart de la population le plus pauvre. Donc la principale disparité qui existe, c'est surtout entre les riches et les pauvres, beaucoup plus qu'entre telle catégorie ethno-raciale et telle autre. On dit de la même manière, puisqu'il y a le film là qui va sortir de Michael Moore aujourd'hui, qu'il y a un vrai problème dans la mesure où vous avez 11% de blancs qui n'ont pas de couverture médicale aux États-Unis et 19% de noirs. Et c'est vrai qu'il y a une inégalité, une discrimination qui frappe les noirs. Ce qu'on oublie de dire, c'est que quand vous disposez des revenus les plus faibles aux États-Unis, vous avez 25% de chances de n'avoir aucune couverture médicale. Et je crois qu'il est de plus en plus important de voir dans quelle mesure le discours sur la diversité n'est pas aussi un moyen de masquer que les inégalités sociales, elles, se creusent.
Machiavellica, Portugal, Rachidico dal Senegal, paranoiaca americana, bla 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 bla, Allahu Akbar ibn Wassez, c'est à qui qui sera plus balèze, et la Torah dans tout ça, à ça non plus ça m'aura pas. Portugal.
расщитико да се нега, парано я гадевикана, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
Merci à tous, merci à l'équipe du Monde Diplomatique, Dominique Kopp, Christian Jacquiot, Serge Halimi, Maurice Lemoine, Ignacio Ramonet, Bernard Cassen et notre Renaud Lambert à nous. Vous avez entendu un bref extrait du documentaire de Philippe Baquet, Le beurre et l'argent du beurre, produit par la SMAC, que vous pouvez voir sur les écrans actuellement. On n'a pas évidemment évoqué tous les papiers qui sont dans le Monde Diplomatique de ce mois-ci, mais j'attire votre attention spécialement sur un papier intitulé « Israël, l'antisémitisme » de l'ex-président James Carter. Vous vous souvenez de Jimmy Carter ? Eh bien voilà, selon certains mouvements américains, le livre qui va être publié bientôt en français « Palestine, la paix, pas l'apartheid », donc signé de Jimmy Carter, présenterait des aspects antisémites. C'est au moins ce que dit l'Anti-Defamation League, qui, à l'instar d'autres mouvements ultrasionistes que nous avons chez nous, voit de l'antisémitisme partout, dès lors qu'on ose critiquer la politique israélienne. Toutes les informations sur cette émission sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Base où j'y suis. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Stéphanie Coulon. J'oublie de vous dire que Christian Jacquiot, qui est avec nous, est l'auteur d'un livre « Les coulisses du commerce équitable ». Il est 16h sur France Inter, c'est le moment de la réclame.